ex-conseillère politique. Et ça, ça fait bien notre affaire. Yasmine Abdel-Fadel.
On continue notre revue des députés provinciaux qui ont décidé de quitter la vie politique. Et cette année, évidemment, il y en a plusieurs. Gaétan Barrette en fait partie. Et Gaétan Barrette est avec nous. Merci beaucoup, M. Barrette, d'avoir accepté notre invitation.
Merci, ça me fait plaisir.
Alors, comment on se sent après le 10 juin, fin des travaux parlementaires? On ne reviendra pas à l'Assemblée nationale, on retrouvera pas son pupitre. Comment vous vous sentez aujourd'hui?
Très bien. C'est une étape dans la vie que j'avais prévue à mon entrée le 7 avril 2014. Alors, ça se passe très bien pour moi.
Est-ce que vous avez des plans pour l'automne? Vous, est-ce que c'est une retraite qui vous attend ou vous êtes en train de caresser des projets qu'on va apprendre un autre jour ou que vous pouvez nous dire ici de manière exclusive? Évidemment, on est entre nous, M. Barrette.
Bien sûr. Alors, j'ai pas de projet particulier. J'en ai jamais eu dans ma vie, sauf celui de faire mon cours de médecine. Le reste, j'ai jamais sollicité d'emploi ou de position. J'ai toujours attendu ce qui allait arriver. Donc, je m'attends à ce que le téléphone sonne, et s'il sonne pas, ben, c'est pas grave. J'ai 66 ans dans une semaine, alors c'est l'âge de la retraite. S'il sonne, ben, on verra si ça m'intéresse. Si ça ne m'intéresse pas, je le ferai pas. Mais je peux vous dire une chose, quand on m'appellera, il faudra qu'on me propose quelque chose à propos de laquelle j'ai des chances d'aboutir. Alors, je ne me rembarquerai pas dans des espèces de projets qui sont des projets, de faillance, des projets où on n'aboutira jamais. Là.
Est-ce que vous considérez qu'être député de l'opposition est un projet qui n'aboutit jamais et un projet de faillance où on ne fait que finalement se présenter, mais qu'on n'a pas nécessairement le pouvoir pour faire avancer les dossiers qui nous sont chers?
On a un pouvoir pour moduler des dossiers qui sont des dossiers courants et on a le pouvoir d'apporter certains dossiers nouveaux. Et là, le problème pour le député d'opposition, c'est qu'il faut franchir ce que j'appellerais le mur des médias. Parce que les médias, ce sont un peu des haut-parleurs, des amplificateurs de nos idées. Et si ça ne colle pas, ben on ne le fera pas avancer. Et si ça colle, oui, on peut le faire avancer. Ça, c'est pour des nouveaux projets. Et pour ce qui est courant, ben, on a le pouvoir, avec le même mécanisme, mais avec moins d'importance, de bénéficier des médias.
Puis les médias, on sait qu'ils jouent une force d'accélération de certains dossiers. M. Barrette, qu'est-ce que vous avez aimé le moins de votre rôle à l'opposition?
Ah, le rôle à l'opposition, ce que j'ai aimé le moins, ben ça, je veux dire, je pense que personne ne va être surpris si je dis que dans l'opposition, je n'ai pas bénéficié des dossiers qui étaient dans ma palette régulière.
Vous auriez aimé être le critique en matière de santé?
Oui, je pense que mes collègues ont fait un excellent travail en santé, mais disons que ça aurait été plus agréable pour moi, vous poser la question pour moi, là, pas pour le parti. Pour moi, ça aurait été plus agréable, plus efficace, à mon avis, en ce qui a trait à l'énergie que j'ai à mettre là-dedans et la compétence d'être en santé. Là, évidemment, les gens vont me dire, oui, mais vous pouvez pas être en santé parce qu'à chaque fois que vous allez vous lever, on va vous dire, oui, mais vous étiez là, vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça. Mais moi, je dirais que le fait d'amener l'angle nouveau, l'angle plus détaillé a son effet. Bon, ça, je ne l'ai pas eu, c'est pas grave.
Est-ce que vous pensez que c'est une erreur de leadership que de ne pas avoir misé sur les forces des membres du caucus existant libéraux pour attaquer certains dossiers comme celui de la santé à plus forte raison lorsqu'il y a une pandémie?
Ben, comme je vous dis, il y a des gens qui sont compétents là, quand même chez nous. Ils ont fait un excellent travail. Maintenant, ça sera toujours la prérogative du ou de la chef de sélectionner les fonctions de ses membres, des membres de son caucus. Au pouvoir, c'est sa prérogative pour nommer les ministres. Dans l'opposition, c'est sa prérogative pour nommer les porte-parole. Alors ça y appartient. L'histoire dira si c'était les bons choix ou non.
Monsieur Barrette, comment vous vous sentez alors que vous quittez et que le Parti libéral est au plus bas des sondages, que même les projections de sièges donnent votre circonscription Lapinière comme circonscription caquiste aux prochaines élections? On n'aurait pas pu imaginer ça il y a quelques années. Comment vous vous sentez comme membre du caucus sortant, caucus libéral, qui risque de diminuer en termes de nombre?
Ben, écoutez, pour ce qui est de ma circonscription, c'est pivot. Alors là, ça peut aller dans un sens ou de l'autre. Alors, on ne peut pas dire aujourd'hui, selon les analyses, que ma circonscription s'en va à la 4. La circonscription, elle est dans la vague du temps, l'ère du temps électoral au Québec. Il y a une vague caquiste qui fait en sorte que ça va être difficile à la prochaine élection. Alors, chez nous, ça ne fait pas exception. Mais j'ai encore bien confiance, là, que d'ici le 3 octobre, les Québécois qui nous écoutent vont se rendre compte de la situation et réaliser qu'à la CAQ, là, on a bénéficié de 2 ans de pandémie, 2 ans où ils étaient intouchables parce que personne n'osait les toucher. Moi, je connais des journalistes qui se font littéralement presque, menacés de plaintes au conseil de presse parce qu'ils n'aiment pas leurs articles, là. Alors, la CAQ a bénéficié d'une situation hégémonique dans l'espace public, et on le dit il y a quelques instants, l'espace public crée une situation favorable et défavorable, et ça a été ça. Maintenant, les 3 prochains mois vont peut-être changer un peu ou beaucoup la chose, et les gens vont peut-être réaliser, puis je vais vous donner un exemple. En santé, là, c'est bien beau la pandémie, là. Et la pandémie n'a pas empêché les cerveaux du ministère de fonctionner et les décisions de se prendre. Et il n'y a rien qui s'est passé pendant 4 ans en santé, là. Vous n'avez toujours pas de médecin de famille. Vous attendez toujours à l'urgence. L'informatisation n'est pas toujours faite. Et ainsi de suite. Toutes des choses qui auraient pu être réglées en 4 ans. Moi, je peux vous dire une chose. C'est sous nous autres, ça aurait été réglé. Mais ça n'a pas été fait. Alors là, l'ère des excuses, là, elle est passée et les 3 prochains mois vont peut-être jeter plus de lumière là-dessus.
Ce Barrette, on entend encore beaucoup parler de la fameuse réforme Barrette, comme un espèce de vidoir de toutes les critiques que l'on peut adresser au système de la santé. Est-ce que vous regrettez la réforme Barrette et si vous aviez à la refaire, est-ce que vous feriez quelque chose de différent?
Ben, je le ferais sur un ton un peu différent, mais je ferais les mêmes choses. Vous savez, les gens ont oublié, là, parce que quand j'ai quitté en 2018, on avait fait le recensement, on avait recensé toutes les annonces, petites et grandes, que nous avions faites pendant mon mandat. Il y en avait plus de 400. Et tout ce qu'on retient, c'est la réforme. Et sur la réforme, ben, je vous soulignerai à grands traits que la CAQ n'a pas défaite. Je vais vous donner un exemple qui est tellement, tellement parlant. On m'a reproché d'avoir fait une réforme où on avait diminué le nombre de cadres. On en a diminué de 1300 parce qu'il y en avait trop. Le Québec, il était dans l'endroit au Canada et même en Amérique du Nord le plus encadré. La CAQ, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Elle en ramène 150. Ça veut dire, 150 sur 1300, que j'étais à la bonne place à 90%. Vous savez, quand je passe un examen, moi, là, quand j'ai 86%, là, je me trouve bon. Alors, c'est comme ça dans tous les secteurs de ma réforme, qui a été peu comprise. On ne l'a pas changé. On a fait des ajustements, et c'est normal. Il y a toujours des ajustements à faire. Ce que j'ai fait n'est pas parfait. Mais je vais vous donner un autre exemple. Je vais vous donner il y a quelques instants. Numériser, là, informatiser le dossier santé, le réseau. Je l'avais commencé. Ils l'ont arrêté en 2018. Il y a des produits qui s'achètent et qui s'installent. 4 ans pour faire ça. Ça devrait être terminé. Terminé. Et aujourd'hui, on annonce un chantier qui va prendre 5 à 6 ans.
Mais en même temps, M. Barrette, la question que je me pose, puis vous avez des arguments évidemment que vous faites valoir, mais pourquoi êtes-vous le seul de votre caucus à défendre la réforme Barrette? N'appartient-elle pas au bilan du Parti libéral et que tout le monde, à plus forte raison, la chef de l'opposition officielle et la chef du Parti libéral du Québec, devrait démontrer plus d'ardeur à défendre le projet que vous avez proposé?
Ben, vous posez une excellente question à laquelle une seule personne peut répondre. Je vous invite à lui poser la question.
Est-ce que vous êtes déçu du fait que vos collègues n'aient pas défendu les actions que vous avez tenté de faire avancer en matière de santé?
C'est que mes collègues là, ont défendu les choses. Et vous savez, la défense, c'est un peu... Ça appartient, je dirais, aux individus. Moi, ce que je peux conclure après 8 ans et demi là, de politique, c'est que si les choses ne sont pas parfaitement comprises, ben elles sont mal perçues, peu importe qui les regarde et les analyse.
C'est sur cette note-là que je vous dis merci, Dr. Barrette, d'avoir pris le temps de venir nous parler. Je suis pas mal sûre que le téléphone va sonner et que on va vous voir plus souvent dès cet automne sous d'autres responsabilités parce que vous n'avez pas la langue dans votre poche et vous aimez bien trop ça, commenter l'actualité pour que vous preniez votre retraite, là.
Je vais utiliser une expression qui est appropriée dans cette période-ci.
On verra.
On verra.
Bonne journée, Dr. Barrette, et bonne fête du Canada.
À vous aussi, au revoir.